Αφάνηκε από εκεί. Έλα ντε. Εγώ δεν θα τα έπαιρνα τώρα, θα τα άφηνα. Έλα. Πολλά έχουμε γιατί είμαστε δύο οικογένειες.
Le coût de la dette. Un hiver à Athènes. Un documentaire de Nejma Bouakra et Vincent Deck.
Από Μαϊντανό, από Σέλινο, από Λότι, από Λάχανο, από Χόρτα, από πατάτες, από κρεμμύδια.
Donc elle peut remplir un chariot de pommes de terre, d'oignons, de courgettes, et elle peut vivre pour une semaine.
Ό,τι μπορέσουμε και βρούμε.
Ce qu'elle peut trouver, quoi.
Γιατί εγώ και ο άντρας μου είμαστε άνεργοι.
Parce que mon mari et moi, nous sommes au chômage.
Vous glanez sur différents marchés, toutes les semaines?
Τετάρτη στον Άγιο Αντώνη, την Παρασκευή έχει λαϊκή στο μετρό λίγο πιο κάτω από εδώ.
Le lundi elle vient ici, le mercredi elle va à Saint-Antonios, le samedi elle va sur un autre marché, donc elle fait tous les marchés.
Τι τίποτα, έλα και εσύ να γίνουμε πολλές, γαλλικό κανάλι.
Depuis la crise, ils aident et ils laissent les cartons pour que les gens puissent se servir.
Le marché dure plus longtemps ces temps-ci. Ce ne sont plus seulement les fins de mois qui sont difficiles. La crise se compte en années. On a pris le pli de faire ses courses à l'heure où les prix sont bradés. Des cagettes empilées sont laissées aux glaneurs aux cheveux blancs. En 2010, la Grèce est victime d'attaques spéculatives sur les marchés financiers. Le pays est au bord de la cessation de paiement. Il ne parvient pas à refinancer sa dette à des taux raisonnables. Les mémorandums successifs, ces plans d'aide assortis de mesures d'austérité, ont asséché les bourses de la classe moyenne et entraîné la Grèce dans la spirale du surendettement. Ces cinq dernières années, les plus rudes, ont fini d'épuiser les réserves familiales. Le salaire minimum est passé de 750 à 480 euros. En juillet 2015, Alexis Tsipras, fraîchement élu à la tête du gouvernement, appelle le peuple à se prononcer dans un référendum sur les réformes formulées par les créanciers. Le non l'emporte à 61%. 80% des jeunes ont voté non à l'austérité. Il faut dire que 60% de cette classe d'âge est au chômage. Seuls les gens très âgés ont apporté massivement leur voix à un programme qui, en définitive, les vise. Baisse générale des retraites, et retraite minimum de 384 euros. Au printemps 2012, un homme âgé de 77 ans, Dimitri, se tire une balle dans la tête, place Syntagme, face au Parlement. Il croulait sous le poids des dettes. Je ne trouve plus d'autre solution qu'une mort digne, ou sinon, faire les poubelles pour me nourrir. Le 7 avril, Athènes se soulève. La fille de Dimitri lui répond dans une lettre publique adressée aux enfants têtus de la chimère. Dans une telle conjoncture, le suicide paraît évident, pas comme une fuite, mais comme un cri d'éveil. Dors en paix, mon père, et moi je reprends ta voix. À l'endroit même où tu nous as quittés, il y a la note d'un jeune. Aujourd'hui, le nom de défunt est démocratie. Mais nous, nous sommes 11 millions de vivants et nous portons le nom de résistance. Le gouvernement d'Alexis Tsipras se trouve aujourd'hui dos au mur et doit appliquer les mesures qu'il condamnait quelques mois plus tôt. Sur les pas du blogueur Grace Crisis, Paniagotis Gregoriou, nous lisons des projections sombres sur les murs d'Athènes, en espérant tout bas qu'elles ne prédisent pas l'avenir.
Là, nous sommes place de la Constitution. Il y a un slogan en face donc du Parlement. Vaut mieux vivre avec la drachme, donc la monnaie nationale, et sans un sou, plutôt qu'avec l'euro et vivant esclave.
Ici, sur cette immense place, on sent une certaine joie de vivre, on entend des skates non loin de nous, les arbres ont été illuminés pour Noël, des gens se promènent avec des ballons. La crise, à première vue, est sournoise.
Oui, la crise, elle est sournoise. Elle est vécue par strates, elle est vécue par vagues, elle est vécue d'une manière irrégulière. Elle touche les gens, mais les gens ne vont pas les crier au effort tous les quatre matins, en tout cas... à tous les moments ou à tous les instants, il y a un mélange. Bon, les arbres ont été donc décorés des lampions de Noël, sauf que parmi les arbres décorés, il y a l'arbre de Dimitri. Alors, Dimitri, c'est Dimitri Christoulas qui s'est suicidé le 4 avril 2012, s'est tirant une balle dans la tête ici, à peu près 8h du matin. Donc, un événement catalyseur de la crise grecque, ce qui fait de cet arbre-là déjà un lieu de mémoire de la crise grecque.
Dimitri a laissé une très belle lettre.
Oui, Dimitri a laissé une très belle lettre qui a été en même temps une lettre très dure. Parce que Dimitri a précisé qu'il s'en allait de manière volontaire parce qu'il ne voulait pas justement vivre comme un esclave. Et il précisait aussi que, je cite encore une fois, comme je ne peux pas prendre les armes vu mon âge et que des jeunes auraient dû le faire à ma place, j'ai disparu comme ça. Les responsables politiques de cette crise doivent être condamnés.
Cet homme, on le connaît bien. Il était pharmacien et c'était un retraité.
Oui, premièrement, pharmacien et retraité, ça veut dire que ce n'était pas quelqu'un qui était dans la rue. Dimitri Christoulas cristallise les vécus de la classe moyenne, paupérisée de la classe moyenne qui ne voit plus devant elle un quelconque avenir. C'est-à-dire la société grecque, ce qui était quand même l'ossature de cette société, la classe moyenne représentant grosso modo 70% des gens, est par terre. Dimitri dénonce une certaine classe politique grecque, mais surtout en tant que retraité, très, très précisément, il est en train de dire que les retraites de la plupart des gens ont subi des baisses allant de 20 à 60%. Ces suicides de Dimitri a cristallisé tout cela, qui plus est dans un contexte d'élections à venir. C'est-à-dire, je rappelle, nous étions en avril 2012 avec les renforcements déjà du parti de la gauche radicale Syriza qui est devenu le deuxième parti du pays. Et c'était un moment de désespoir, mais un moment où les Grecs, cette immense classe moyenne qui quelques mois auparavant avait manifesté ici sur cette même place sous le mouvement qu'on appelait, pour aller vite, celui des indignés, avait placé ses espoirs, ou son espoir si vous voulez, en une partie de la classe politique.
Cet homme espérait que d'autres après lui pourraient renverser ce régime oui. Qui sacrifie ces retraités, cette classe moyenne.
Justement, plus qu'un acte de désespoir économique, c'est un acte de résistance politique, est un acte qui était censé, d'après lui, contribuer en tout cas à ouvrir la voie vers autre chose, vers des manières de lutter plus efficaces. Et je ne fais pas allusion forcément à la violence là. Donc il s'est fait violence quand même, et il est parti de cette façon-là. Ce qui est clair, c'est que depuis 2010, c'est-à-dire depuis le mémorandum, la Troïka, la crise, les suicides sont en augmentation constante. Voilà les contrastes, la musique, avant les fêtes, de fin d'année, Noël, et en même temps, les pays en crise avec pratiquement un tiers des gens sans couverture santé. Voilà.
Est-ce qu'on peut toujours parler de crise? Parce que c'est plus une crise. La difficulté de la vie s'est installée.
Oui, au départ, quand les problèmes financiers ont commencé, il y avait une solidarité financière, c'est-à-dire que les amis, les membres de la famille demandaient aux amis, aux autres membres de la famille de leur prêter de l'argent. Donc on prêtait 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Quand on voit vraiment un ami en difficulté, c'est très difficile. Difficile de ne penser qu'à soi. Et si on peut prêter, on prête. Maintenant, c'est plus possible puisque les portefeuilles sont vides.
Vous avez prêté beaucoup d'argent, vous ?
Environ 30 000 euros depuis le début de la crise, oui. Oui, oui. Mais souvent, on sait qu'on ne les retrouvera pas. C'est une solidarité. C'est difficile de voir son voisin, son ami, qui ne puisse pas survivre ou qui ne puisse pas... qui est dans le besoin, tout simplement. Et ça, c'est terrible parce qu'on a souvent un sentiment de culpabilité. Par exemple, moi, dans mon quartier, je suis peut-être, je fais partie des privilégiés qui ont encore les moyens de pouvoir aller au supermarché à n'importe quel moment. Et finalement, quand j'essaye de ne pas avoir trop de sacs, surtout si je vais m'acheter par exemple un pull ou un pantalon ou des chaussures, j'essaye de ne pas le montrer, surtout si je dois aller chercher ma fille à l'école, parce qu'on regarde le sac et ça, ou alors c'est moi ou c'est je. Mais il y a un sentiment de culpabilité. Moi je suis enseignante, mon mari a une entreprise, donc on fait partie certainement des 30% de Grecs qui vivent bien, et il y a une expression en Grèce qui dit on va laisser couler le miel, et je pense que ce miel coule pour 30% de la population. Donc même si tout va bien, on a ce sentiment de, enfin en tout cas pour moi, j'ai ce sentiment de culpabilité.
Ça, c'est le croisement de des rues de quartier d'Exarchia. Vous voyez, il y a des cafés qui ne sont ni pleins ni vides. La crise grecque, tout est effondré. Mais tout continue à vivre en même temps. Ici, c'est une crise qui traîne, c'est une crise qui touche pratiquement tout le monde, mais qui tout le monde n'est quand même pas forcément encore détruit, je vais dire économiquement et psychologiquement parlant, par la crise. Donc les gens sont dehors, en tout cas ceux qui le peuvent encore sont dehors. C'est pénible parce que lorsque les gens se retrouvent très fatalement, ils vont échanger entre eux, s'échanger leur misère, économique ou pas. Ce qui fait que, au bout d'un temps, et pas uniquement parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir financer un café ou un repas, les gens n'ont plus envie de sortir. Il faut dire aussi que durant cette crise, il y a une hausse extraordinaire de ce qu'on pourrait appeler l'usage des médicaments des types antidépresseurs. Sans parler des suicides, il y a aussi je dis pas un effondrement, mais il y a quand même une baisse de la sociabilité. Parce qu'on n'a plus envie. Les gens sont fatigués, ils sont laminés. Donc l'image qu'on a de la Grèce et des gens qui sont dehors et qui se baladent et qui en profitent n'est qu'une image à moitié visible. On ne verra pas les autres. Et puis ce qu'on ne voit pas, c'est que parmi ces gens que vous voyez là, on ne sait pas combien de ces gens-là, par exemple, ne bénéficient plus de la couverture santé. Pratiquement un habitant sur trois dans ce pays. Sont éjectés, pour le dire comme ça, de la sécurité sociale. Vous allez me dire, mais comment ils font pour avoir un café? Parce qu'ils se cotisent, parce qu'il y a quelqu'un au sein du foyer qui travaille, parce qu'il y a surtout les parents ou les grands-parents qui perçoivent encore des retraites.
Stéphania Mizara, photographe, nous emmène derrière les grillages d'une immense piste d'aéroport désaffectée où des avions vintage regardent passer les nuages. Hellenikon. Ce sont 620 hectares de terrain hautement convoités dans la banlieue d'Athènes. Le site fait deux fois Central Park et donne sur des kilomètres de front de mer. Un dispensaire de soins gratuit, poisson pilote de nouveaux centres de soins, s'est installé sur ce site. Seulement la Grèce s'est engagée auprès de ses créanciers à réaliser 50 milliards d'euros en privatisation et exploitation commerciale de son domaine public. Seuls 7 milliards ont été récupérés en 3 ans, tant les biens sont bradés. La menace des bulldozers se fait de plus en plus pressante sur ce terrain.
Nous sommes arrivés dans le quartier d'Hellenikon et devant nous, un aéroport, des avions qui semblent arrêtés sur place, un peu vétustes. Tout le paysage est immobile. Que s'est-il passé ici ?
Donc là, on est dans le quartier d'Hellenikon. On est au sud d'Athènes, dans une banlieue qu'on peut dire qui est une banlieue riche. On est au bord de l'ancien aéroport créé par Onassis, l'armateur grec dans les années 60. Et c'est le terrain le plus convoité de la Méditerranée. C'est la première chose que tous nos gouvernements, finalement pro-mémoranda, veulent privatiser. Et c'est là-dedans qu'ont été basées 2 ou 3 ou 4 installations olympiques des JO à l'époque, de 2008. Les Jeux olympiques, c'était un peu le début de la fin. C'était un peu, on a essayé de nous vendre ça comme le rêve européen. Pendant les années de PASOK, de Parti Socialiste avec l'entrée en Europe, il y a eu une énorme... Enfin, le Nord a voulu nous rendre une société de consommateurs et nous, on a bien marché dedans. Et ça nous emmène à ce qui nous a emmenés aujourd'hui.
Lorsque vous avez démarré votre carrière de photographe, vous ne vous attendiez pas à ce que la Grèce devienne elle-même un sujet?
J'ai passé la plupart de ma vie à couvrir des... pas vraiment des zones de conflit, mais juste après le conflit ou autour du conflit. Et c'est quand même assez choquant qu'on commence à voir la même chose à la maison. On se rend compte que finalement, le petit coussin sur lequel on est, ben, il est pas si étanche que ça, il est pas si indestructible que ça.
C'est un peu direct comme question, Stéphania, mais quand est-ce que vous avez senti venir la dégringolade?
Bah, en fait, pendant l'été des indignés en 2011, j'ai commencé à m'occuper, à rencontrer des gens de différents mouvements. Et tout pendant les 6 mois qui ont suivi, on commençait à vraiment voir la pauvreté qu'on annonçait depuis 2-3 ans. C'est qu'il y avait plein de gens qui commençaient à dire « Bah, écoute, je ne pouvais pas t'appeler hier parce que je n'avais pas d'unité pour mettre à mon portable. » Et là, on peut parler d'une somme de 5 euros. T'avais des gens qui pouvaient pas venir parce qu'ils avaient pas 5 euros de mettre d'essence dans leur voiture pendant qu'ils avaient une voiture. Et donc c'est là où ça commence à se voir dans la vie quotidienne que les 5 euros ils sont importants. Vraiment, t'es à 5 euros près. Et ce quartier prospère, en fait, il héberge depuis au moins 3 ans le plus grand dispensaire social d'Athènes qui se loge dans le terrain de l'ancien aéroport.
On y va ?
On y va.
Nous sommes entrés dans le dispensaire social d'Hellenikon et là nous apercevons eh bien, 3 femmes qui semblent tenir une sorte de secrétariat. Quelques autres personnes sont face à elles et attendent un rendez-vous. Donc nous sommes en présence de volontaires.
Ce sont des volontaires du quartier qui viennent ici depuis quelques années déjà. En fait, il y a à peu près 200 volontaires et 80 médecins qui viennent travailler volontairement ici. Voilà Mariana qui parle aussi, elle est une de nos volontaires, elle parle un peu français.
Un moment s'il vous plaît. Excusez-moi, je regarde qu'il y a certaines choses qui arrivent et on doit faire tout.
Ce sont des médicaments de l'étranger ?
Oui, spécialement de chez vous. Je crois que les deux colis viennent de la France.
On dit que parfois, il y a plus de médicaments dans les dispensaires que dans les hôpitaux. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai, ça.
Dans certains hôpitaux, c'est nous qui donnons des médicaments.
Pour vous dire la vérité, moi, heureusement, je n'ai pas eu besoin d'aller dans un hôpital grec. Heureusement. Excusez-moi. Κοινωνικό γιατρείο λέγεται.
Κάποιον ασθενή, θέλει να ρωτήσει κάποιον ασθενή κάτι.
Γεια σας.
Θέλω να πει την κατάστασή μας, αλλά να μάθω να παίξω.
Ναι, να το μάθει. Και να κρύβουμε από το...
Vous venez parce que vous avez un traitement que vous voulez suivre. C'est ici que vous venez chercher des médicaments.
Έρχομαι εδώ να για το γιατρό, να κάνει, να κοιτάει ο γιατρός, είμαι άρρωστη και να πάρει και τα φάρμακα.
Je viens ici pour voir le médecin et pour qu'il me donne les médicaments. Je souffre du cœur.
Vous ne pourriez pas être suivi ailleurs qu'ici?
Μπορεί, τώρα, τι να σου πω, περίμενε, περίμενε. Επειδή έχει τελειώσει το βιβλιάριο και δίνουν βοήθεια εδώ και για φάρμακα και για γιατρία.
Je n'ai plus de bulletin de santé et c'est pour ça que je viens ici, parce qu'ici on ne me demande pas d'avoir de bulletin de sécurité sociale étatique.
Merci beaucoup. για τα καλά που μας προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα του κοινωνικού φαρμακείου, που αν δεν είχαν αυτοί θα είμαστε στη Χωματούπολη.
Si on, on, ils étaient pas, ces, ces bonnes personnes n'étaient pas ici, on serait dans la terre, dans, dans le cimetière.
Βέβαια, όταν υπάρχουν άνθρωποι, σου δίνουν δωρεάν φάρμακα, σου δίνουν δωρεάν γιατρό και προσφέρουν εργασία χωρίς να αμείβονται, δεν το περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχουν.
Je m'attendais jamais à ce qu'il y ait des gens qui offrent des médicaments, leur savoir-faire et leur travail gratuitement, sans être payés. Je ne l'aurais jamais imaginé.
Τι ώρα θα έρθει?
Δόκτωρ Βιτσάς, nous allons par là, vous suivons. Όχι,
θα περιμένετε να σου δώσω.
Καλά φαίνεται.
Εσύ.
Merci de nous accueillir. Quel est les... C'est bientôt Noël. Quelle ambiance vous ressentez ici au dispensaire?
Ναι. Πιστεύω ότι τα προηγούμενα χρόνια συνέβαινε αυτό. Αλλά η κρίση έχει βαθύνει τόσο πολύ σε αυτή τη χώρα, όπου πια ο κόσμος.
Donc la crise a tellement, c'est tellement approfondie. C'est déjà, ça fait déjà tant d'années que maintenant on est plus choqué par Noël. On est habitué à pas avoir. Tandis que les années d'avant, c'était beaucoup plus difficile parce qu'on était encore dans le transit.
On vous a donné un petit peu les clés de ce lieu-là. Vous avez pu construire ce lieu-là avec des volontaires qui se sont agrégés. À quel moment avez-vous pris cette décision-là?
Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί από την αρχή υπήρχε η σκέψη να δημιουργηθεί
μια εθελοντική. C'était qu'il fallait créer une structure alternative médicale, pas seulement pour aider les gens, qui est la chose la plus importante et évidente, mais aussi pour réagir contre la politique qui est appliquée dans ce pays.
Parfois des personnes viennent ici en état critique. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Parce qu'il n'y a pas de bloc opératoire. Est-ce qu'il y a une solidarité avec certains médecins dans les hôpitaux pour venir en aide, par exemple, à des personnes qui ont besoin de soins de façon urgente?
Οι δύο πράγματα γίνονται για αυτές τις περιπτώσεις. Η μία αφορά, μια κατάσταση αφορά τη.
Il y a deux choses qui y arrivent. C'est des, il y a les structures de solidarité dans les hôpitaux qui nous aident depuis le début jusqu'à maintenant.
Αλλά υπάρχει άλλη κατάσταση που βιώνουμε τα τελευταία 4 χρόνια, εκείνη που πιέζουμε.
Il y a la deuxième action qui est qu'on essaye de faire depuis 4 ans, qu'on insiste à faire accepter les patients dans les hôpitaux publics.
Quand les patients n'ont plus de sécurité sociale, comment pouvez-vous les faire admettre au sein des hôpitaux?
Avec des cris, des menaces et tout ce qu'on peut imaginer.
Τώρα έχει έρθει ένας ασθενής. Ο οποίος με πήρε τηλέφωνο, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα και μια και θα ερχόμουν και είπα να
τον δω. Là maintenant est venu un patient à me voir qui est très sérieusement malade avec son cœur et qui a été carrément jeté du bloc opératoire en 2014. Il n'y avait plus de sécurité sociale.
Παράδειγμα, υπάρχει ένα νοσοκομείο στην Ομόνια Πολυκλινική.
Il y a une polyclinique à Omonia qui jusqu'en 2014, elle travaillait quasiment pas.
Είχα σκεφτεί λοιπόν να αυτοδιαχειριστούμε αυτή την κλινική και να
j'avais pensé alors de occuper l'espace et de monter une sorte d'hôpital là-bas en faisant tout ce que fait un hôpital.
Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι συνάδελφοι φοβήθηκαν.
Mais malheureusement la plupart des collègues ont eu peur.
Finalement, le seul lieu de santé public, c'est ici, ce sont les dispensaires, ce ne sont plus les hôpitaux.
Δυστυχώς έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ δουλεύω το πρωί σε κρατικό.
Malheureusement, c'est vrai. Moi, je travaille le matin dans un hôpital, enfin une structure d'État.
Το πρωί στη δουλειά μου δεν έχω ούτε υπέρηχο.
Le matin à mon travail, je n'ai même pas du ultrason.
Και μερικές φορές δεν έχω και το χαρτί α4 για να εκτυπώσω τη συνταγή.
Et quelquefois, j'ai même pas du papier pour imprimer l'ordonnance.
Έρχομαι εδώ το απόγευμα, έχω το υπέρηχο.
Et je viens ici l'après-midi et j'ai mon ultrason, les médicaments. Donc médecin, je me sens carrément beaucoup mieux pour aider les gens et pour offrir ce que je peux offrir.
Και ένα άλλο παράδειγμα, κάθε μήνα, το τελευταίο περίπου 6-7 μήνες.
Et depuis quelques mois, on donne des médicaments à au moins une dizaine de structures d'État conventionnelles.
Est-ce que ce réseau de solidarité va pouvoir se maintenir avec des volontaires qui travaillent à la fois le matin et le soir.
Το να κρατήσει κανείς τη δουλειά του την κανονική, δεν το ξέρει κανένας είτε είναι στο δημόσιο είτε όχι.
La question se pose pas dans le sens si on peut tenir les deux boulots. La chose qui n'est pas sûre du tout, c'est qu'on va garder le travail du matin.
Un élément révélateur de la crise, c'est que les familles, par exemple, ne vont plus vacciner leurs enfants. Donc il y a, la couverture vaccinale n'est plus assurée. On risque de voir d'anciennes maladies réapparaître.
Πιστεύω πως ναι, θα εμφανιστούν εφόσον συνεχιστεί ο μη σωστός εμβολιασμός.
Avec le manque de vaccins et de vaccination des enfants, vont apparaître des maladies qui feront un peu preuve d'une honte pour l'Europe et pas seulement pour la Grèce.
Αυτό που θέλω να πω για τα παιδιά, μια και μιλάμε για αυτή την κατηγορία των παιδιών, έχει ήδη αρχίσει να αυξάνει.
Vu qu'on est sur les enfants, je voudrais dire quelque chose que j'ai vu sur des statistiques. La mortalité infantile qui a commencé à devenir un phénomène réel. C'est la première fois qu'on voit cette augmentation de la mortalité en période de paix.
Θα μπορούσα να τους δείξω εικόνες, παράδειγμα, καρκινοπαθών. Η Ελένη.
Je peux vous montrer des images de cancéreux, notamment cette femme qui est venue en été 2012 avec son sein ouvert d'un cancer. Des cas qu'on voit pas, même dans des pays qu'on peut appeler sous-développés.
Όταν οι ασθενείς με AIDS δεν έχουν τα φάρμακα τους,
έχει τεράστια έλλειψη. Quand les malades du SIDA prennent pas leurs médicaments, pareil, ils sont condamnés à mort. Enfin, il n'y a plus de médicaments pour le sida en Grèce depuis déjà un certain temps.
Και η άρνηση του βραβείου ουσιαστικά είχε να κάνει με αυτό. Θέλαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία της άρνησης του βραβείου.
Et j'ai refusé le prix de la solidarité européenne parce que l'Europe n'a pas empêché ces politiques à s'instaurer. Pour nous, c'était très important d'informer les peuples de l'Europe de ce qui va leur arriver, parce qu'il va leur arriver à eux aussi, plutôt que d'avoir un titre dans un cadre sur le mur, dans le dispensaire.
Nous sortons du bureau du docteur Vichas et la salle est pleine, une quarantaine de personnes sont entrées dans le hall du dispensaire. Beaucoup de gens sont debout. Pourquoi y a-t-il autant de personnes là, dès le début de la soirée?
Parce que je pense que les hôpitaux grecs n'ont pas assez de médicaments pour les citoyens grecs.
Les personnes qui sont là viennent des hôpitaux, vous nous
oui,
dites là?
La moitié, presque la moitié. Je suis certaine parce que j'ai vu le papier.
Θα πάρει το πρωί τηλέφωνο.
Αυτό το ποταμείο θα διευθύνεται από τους θεσμούς και θα θέσει σε υποδίκη όλη τη χώρα. Η χώρα μας που οδηγείται προς εκποίηση για την αποπληρωμή των πιστωτών.
C'est un rassemblement ici des partis politiques, des gauches, des syndicats aussi. L'orateur est en train de dénoncer ce qui est en train de se passer actuellement en Grèce, c'est-à-dire les entreprises grecques sont bradées, les biens publics sont bradés au ce qu'on appelle les rapaces internationaux. C'est une des manifestations qu'on voit assez souvent en Grèce depuis 2010, bien que pas très bien suivie hein, ce soir.
Πήραμε μια φωτογραφία, δεν έχει στόμα.
Δεν πήραμε σε αυτό, δέντρο πήραμε.
Έχω στήσει ένα δέντρο.
Πολύ καλά κάνω.
Για το καλό του χρόνου, για τα παιδάκια να χαίρονται πιο πολύ, να μας πει καλός φέτος.
C'est monsieur qui nous expliquait qu'il vit là, c'est-à-dire c'était sans abri, et que c'est lui qui a installé un arbre de Noël devant son installation, c'est-à-dire on voit quoi? On voit il y a un matelas, il y a quelques objets personnels, il y a quelques icônes, parce qu'il nous dit qu'il est croyant et que les seuls et grands messages qui comptent, c'est celui de Jésus-Christ, et que finalement un monde meilleur serait celui de l'ouverture. Il a même évoqué l'ouverture des frontières, il a évoqué son sort et il a dit, voyez-vous, je fais ça pas seulement pour moi, je fais ça surtout pour les enfants et pour montrer que je suis dans cette situation, donc je suis un sans-abri, mais je donne quelque chose. Une attitude positive.
Marietta, nous sommes arrivés dans le quartier de Metaxourio.
Metaxourio, c'est un quartier assez vieux d'Athènes. Il faut dire que les bâtiments, peut-être, ils ont été construits par les gens qui y habitent avec leurs propres mains. Un grand pourcentage de la société grecque a son propre appartement, même quand même une propriété assez pas très grande. Alors là, nous sommes juste en face de la cuisine collective au Allos Anthropos, l'autre humain. Et on va rencontrer Costadinos.
Hola.
Γεια σας.
Έλα, καλησπέρα.
Μα σημαίνει έχουν μαριέτα.
Α, μπράβο, ναι, ελάτε, ελάτε, ελάτε.
Έχουν γυρίσει το
προσεκτικό. Γεια σου. Είδα να πάνε την πίση και την πίση. Γιατί μου αρέσει να παίρνω πάντα.
Κώστας, dans ce lieu-là, un certain nombre de personnes travaillent et puis des femmes me disent moi je travaille par amour. Vous faites travailler les gens par amour?
Δουλεύω να πω αγάπη σου πάνε. Ψέματα σου πάνε.
Ils ont menti en fait, ce n'était pas la vérité.
Εδώ βρίσκουμε ανθρώπους. Ανθρώπους που δεν είχαν να κάνουν τίποτα.
Ici on trouve des humains qui peut-être ils avaient relâché leur propre vie, ils étaient dans leur canapé, ils n'avaient pas le contrôle de leur vie en main et ils ont décidé de s'ouvrir vers la société, de faire quelque chose pour changer leur propre vie. Ce n'est pas la charité. C'est un repas. Nous mangeons la même nourriture, le même repas qu'on offre aussi aux gens en besoin pour leur montrer qu'on est écho avec eux. D'abord, quand j'ai commencé, d'abord je faisais ces repas pour moi-même. Et simplement, je fais une très très grande quantité.
Et αυτό σημαίνει ότι χωρίς να προσκαλώ κανέναν.
Moi, je cuisine dans la rue et ceux qui veulent, ils viennent manger avec moi. Quand j'ai commencé ici la cuisine collective, l'autre humain, je faisais à peu près 50-60 repas par jour. Maintenant, on est sur le point de faire toutes les 5 cuisines ensemble, à peu près 3000 à 3500 repas par jour.
La crise dure à Athènes, elle est brutale, et vous avez pu sentir qu'il se crée deux sociétés et que l'une méprisait l'autre.
Moi, je dirais le contraire. C'est à cause du fait que l'individu, les gens pensaient seulement à eux-mêmes, c'est cela qui a apporté la crise. C'est pourquoi j'ai commencé la cuisine collective L'autre humain, parce que j'ai vu l'indifférence aux yeux des gens. J'ai vu des gens tourner la tête quand ils voyaient de vieux gens, de grand-mères chercher la plus belle pour trouver de la nourriture. J'ai vu l'indifférence dans les yeux des hommes. Et ici, il faut ajouter que ce n'est pas exactement la solution du problème. Quelque chose de très petit. Mais quand on fait ce petit quelque chose partout, ça veut dire que ça peut devenir la solution au problème. Et c'est sûrement une action politique. Quand ils m'ont donné le prix du citoyen européen que je n'ai pas sûrement accepté, ils ont imposé l'austérité qui tue les gens et ils voulaient me donner un prix
crient parce que ce sont eux qui ont imposé l'austérité. Et moi, j'ai fait seulement ce qu'ils devaient faire au premier, d'abord.
Παλιές φωτογραφίες, vieilles photographies. Πάλι κοιτάζω, encore une fois je regarde de vieilles photos de manifestations, marches, rassemblements dans les rues, dans des stades, sur des places, photos de 65, de 68, de 74, de 81. Au milieu de foules uniformes, j'essaie d'agrandir le visage, de distinguer l'expression de chacun, volontaire, inébranlable, révolté, couverte de sang, joyeuse, lesquelles...
Titos Patriekus, est-ce que vous rajouteriez aux dates, là, que l'on vient d'entendre, 74, 80, est-ce que vous pourriez rajouter 2008, 2010, 2012?
C'est une poésie assez récente, écrite il y a quelques années. Et je crois que celle-ci encore, j'espère qu'elle est toujours en vigueur, au moins. Je crois que l'événement fondamental maintenant, c'est que la Grèce est pressée par deux forces. Les exigences des institutions européennes pour une série de réformes qui sont vraiment douloureuses pour tous les Grecs, et de l'autre côté, l'éventualité d'une sortie de la Grèce de l'Europe. Je suis dans un âge très avancé. Maintenant, quel avenir ? Le chômage, les impasses, les migrations. Il y a des milliers et des milliers de jeunes diplômés qui partent. Il y a des centaines, sinon des milliers, de médecins grecs qui travaillent maintenant en Allemagne. Le départ du cerveau. Alors ça, on doit faire face à tout ça. L'atmosphère est tendue, est difficile. Et moi, je dis, l'angoisse, je suis d'accord pour l'angoisse, parce que l'angoisse peut mobiliser, mais pas la dépression. On ne peut pas faire face aux difficultés continues si on est déprimé. La dépression est interdite. Ναι. Εκεί δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, πιο αργότερα.
Σοφία Τιτζικού, nous sommes dans votre pharmacie, mais ce n'est pas votre propre pharmacie, c'est une pharmacie solidaire.
Oui, c'est une pharmacie solidaire. Ça fait part d'une clinique sociale, d'une des cliniques sociales qui existent en Grèce. Il dépasse les 55 dans tout le pays. Les 16, même plus maintenant, à Athènes, dans la région d'Athènes. À un certain moment, on a senti le besoin vraiment de réagir, de dire stop, ça ne peut plus aller. Et on doit faire quelque chose pour arrêter ça. Hein. L'image de la réalité grecque est ici, dans cette structure, vraiment. Parce que dans la pharmacie privée, il y a les clients, les patients qui viennent, mais qui vraiment, dans leur majorité, n'admettent pas leurs besoins, parce qu'ils ont honte. Ils ne veulent pas vraiment admettre qu'on ne peut plus, par exemple, avoir accès à l'alimentation pour nos enfants même. Où on n'a pas de chauffage central parce qu'on ne peut pas payer pour le fuel, où on a dû vendre notre voiture. Bon. Alors, il y a eu, c'est-à-dire la société vraiment a changé, mais ça devient visible, bien sûr, dans le privé, dans la vie quotidienne. Mais ici, vous avez l'image des gens qui ont dépassé vraiment les limites, cette ligne rouge. Ils ont eu des pertes qui vraiment les dépassent, et qui n'ont plus ce sentiment de dignité, ont perdu ce sentiment. Et c'est très important pour nous aussi, pour les faire sentir qu'ils sont des citoyens, des gens qui méritent le respect, la dignité, n'est-ce pas?
Et le fait de leur offrir gratuitement des médicaments, c'est une façon de pouvoir réépauler les gens?
C'est une façon de résister. De résister à ces mesures, à ces politiques d'austérité, à ce que des centres politiques, quelque part, la Troïka, Quartet, c'est maintenant le nom, décident pour nous, mais à notre absence, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes même plus, dirais-je, comptés. Ils ne mesurent pas l'impact de ce qu'ils décident, de leurs décisions et des politiques, parce que ça ne les intéresse pas. Cette austérité incroyable et absurde qui ne conduit nulle part.
Vous avez l'impression qu'ici, cette pharmacie solidaire, c'est une sorte de filet qui permet de rattraper quelques personnes?
Oui, ça peut être ainsi. Mais surtout, il y a aussi un travail politique qu'on veut faire ici. C'est-à-dire, on essaie de les sensibiliser, de réagir, c'est-à-dire eux-mêmes, avec nous, à nos côtés. Par exemple, manifestant contre ces démesures. Mais ce n'est pas facile de le faire, parce que chacun et chacune des personnes qui viennent ici sont concentrées à leurs propres besoins. Ils veulent le médicament, ils veulent s'en aller tout de suite, même sans se faire visible, sans être visible si possible.
Ce lieu n'est pas très visible sur la rue.
Oui, c'était un choix qu'on a fait juste dans cette philosophie, disons, de solidarité et de respect des êtres humains qui viennent ici.
On parle facilement de la crise économique d'un point de vue comptable. On a moins de ressources dans son propre ménage, les familles monoparentales. Quel coût psychologique elle a? Qu'est-ce que vous pouvez observer, vous, comme pharmacienne solidaire, Sophia?
Là, c'est l'observation aussi comme pharmacienne quotidienne, disons, n'est-ce pas? C'est la dépression. Il y a la dépression partout. Même chez des gens qui, vraiment, jusqu'au hier, ils étaient bien, puisqu'ils avaient leur travail, leur vie, leur famille, leur maison, tout. Et maintenant, ils n'ont plus rien, vraiment. Ils sont dans le chômage. Il y en a quelques-uns qui ont séparé parce que la famille, vraiment, est ruinée. Leur vie a changé, notre vie a changé, et nous-mêmes, nous avons changé depuis le début de cette crise. On n'est plus les mêmes personnes.
Vous distribuez d'autres médicaments?
Il y a une augmentation des demandes pour des médicaments, pour des maladies psychiques, pour des psychoses, par exemple, pour la dépression, oui.
Les personnes pensent encore à leur traitement, malgré les difficultés qu'elles peuvent vivre.
Au début, ce n'était pas pareil. Il y avait des personnes qui s'abandonnaient, vraiment. Puisqu'on ne pouvait plus trouver des médicaments, on ne pouvait plus acheter des médicaments, on ne pouvait plus se rendre dans le secteur public. Alors, on a eu un cas, enfin, en ce moment, je pense à une personne, il n'existe plus. Il avait le cancer, alors c'était sa dernière chimio, 3 000 ou 4 000 euros. Toutes les fois, il ne pouvait pas payer, bien sûr. Et vraiment, je me suis sentie soulagée parce qu'il y avait deux ou trois jours, quelqu'un était décédé et ses parents nous avaient offert les médicaments qui existaient chez eux. Et c'était exactement les médicaments dont il avait besoin, cette personne. Je me rappelle, on avait mis les médicaments dans un petit sac, il les a vraiment saisis et il s'était enfui. Sans même dire au revoir, vraiment, il s'était enfui. Bon, finalement, il n'a pas pu vraiment en sortir de ça. Bon, il n'existe plus, mais c'est vraiment un exemple de ce. Puisque depuis le début de cette crise, je ne cesse pas de dire que, comme c'est une crise humanitaire, mais c'est aussi une guerre économique, n'est-ce pas? Il y a aussi des victimes. Et il y a des victimes, des vraies victimes, pas juste en théorie, mais des victimes qui ont payé de leur vie le coût de la dette grecque. Et il y en a plusieurs qui ne sont pas comptés parce qu'ils ne sont pas connus, disons. Les familles ne présentent pas, par exemple, les gens qui ont commis suicide durant ces années, mais ils parlent de plus de 7000 ou de 8000 personnes. Ils n'en parlent pas. Tout ce que vous voyez ici, tous les médicaments, sont des offres, sont offertes. gratuitement par des individus, par des personnes, par des groupes, par des municipalités. C'est-à-dire c'est la société même qui réagit, qui prend la responsabilité de survivre, de la survie. Mais il y a aussi un grand nombre de médicaments qui vient des pays européens surtout, qui vraiment nous envoient tous les mois, ils arrivent tout même toutes les semaines, ils arrivent des paquets. Mais comme vous voyez, ça peut être ouvert, mais pas périmé.
Ce réseau de solidarité, il semble fonctionner comme une sorte de société dans la société.
Ouais. Maintenant, je crois que c'est la société même, c'est-à-dire c'est pas une société séparément dans la société, mais c'est la société même qui vraiment, en ce moment, 5 ans plus tard, après le début de cette crise, se rend compte que la solidarité, c'est, comment dirais-je, la seule voie de rester tout d'abord vivant, debout, et puis d'avancer vraiment et de se battre pour ce à quoi on a vraiment le droit d'avoir, n'est-ce pas?
Comment est-ce que vous expliquez que cette classe moyenne grecque, qui elle-même est menacée, puisse autant assumer cette solidarité?
Tout d'abord, il faut expliquer qu'il n'y a plus de classe moyenne en Grèce. Ça n'existe plus depuis quelques années. On a tout perdu, alors être menacé, pourquoi? C'est-à-dire qu'on n'a rien à perdre. Alors, ceux qui les gardent debout, c'est juste cette solidarité vers les autres.
Dans Athènes, il y a plusieurs Athènes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs quartiers, plusieurs façons de vivre, et notamment les quartiers ne sont pas touchés de la même manière par la crise.
Non, lorsqu'on sort de la ville, c'est évident. On peut avoir des quartiers qui sont largement paupérisés, mais on peut avoir aussi des quartiers résidentiels, partiellement paupérisés, où on verra quand même des gens d'une manière relativement discrète, fouillés dans les poubelles, souvent de retraités, et souvent la nuit ou à des heures peu fréquentées, hein, pour aller vite. Et vous avez aussi des quartiers où, de manière plus ou moins discrète, on va couper les arbres pour les utiliser comme bois de chauffage. Et alors, on remarque aussi que dans certains quartiers d'Athènes, et pas seulement qu'Athènes, un peu partout en Grèce, il y a comme un smog, hein, une fumée, hein, qui plane. L'ordre de médecins tire la sonnette d'alarme, puisque lorsqu'on va mesurer la composition donc de l'air, on trouve que c'est très 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 nocif pour la santé publique.
On peut voir dans certains quartiers des arbres coupés.
Oui, dans des parcs.
Ce qui veut dire que ces immeubles des années 60 qui bénéficiaient du chauffage collectif... Qu'est-ce qui se passe? Le chauffage est coupé?
Oui, le chauffage est coupé parce que, premièrement, souvent, les immeubles ne sont qu'occupés à moitié. Donc, les gens quittaient les immeubles, tout simplement, parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer le loyer, parce qu'ils sont allés vivre chez d'autres parents. Et donc, le chauffage collectif ne peut plus fonctionner puisqu'on ne peut pas partager les frais, parce que l'immeuble devient impossible à chauffer lorsqu'il y a la moitié des appartements inoccupés. Et nous avons froid et on attend impatiemment le mois de mars et le mois d'avril.
En ce moment, l'inquiétude est vive à propos des maisons, parce qu'il y avait jusqu'ici une loi qui protégeait, je crois, les Grecs.
Cette loi interdisait la saisie des biens immobiliers lorsque ces biens immobiliers étaient l'habitation principale. Quelqu'un qui était dans le chômage, qui ne pouvait plus rembourser des prêts ou qui avait des dettes vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des banques, était quand même protégé dans ce qui est considéré culturellement par les Grecs quand même les lieux sacrés et ultimes de leur existence, leur maison, enfin une maison sans stable, un appartement, en fait, le lieu d'habitation. Et ça, c'est en train d'être brisé.
Si les personnes âgées vivent mal, hein, toutes ces personnes de la classe moyenne, si les retraités ont peu de moyens pour vivre, cette jeunesse qui a peu d'emplois, où est-ce qu'elle va se réfugier si chaque génération se retrouve elle-même en difficulté?
Et là, c'est la grande question sans vraiment de réponse. Parce que pour l'instant, les générations, des jeunes générations se réfugient chez les parents, voire les grands-parents, avec tout ce que cela peut amener en termes de conflits au sein des familles. Et si jamais la nouvelle génération va se retrouver en partie, en tout cas fatalement, de posséder des biens immobiliers que leurs aînés possèdent encore, on ne sait pas. C'est aussi en cela que la crise grecque détruit des fondements et les certitudes de la société.
Le coût de la dette, un hiver à Athènes. Un documentaire proposé par Najma Bouakra et réalisé par Vincent Deck. Un grand merci à Marie-Laure Koustafalis, Rosa Moussaoui, Stéphania Mizara, Georges Vichas, Sofia Tidzikou, Panagiotis Grigoriou et Kostas Polychronopoulos. Prise de son, Patrick Muller, attaché d'émission, Alison Sinard et Christine Bernard. Coordination, Irène Pomianenko.